Alors maintenant, on va vous laisser la parole. L'idée, c'est bien sûr que vous puissiez poser toutes les questions que vous souhaitiez pour affiner, préciser, mais aussi on attend de vous éventuellement un partage d'expériences, des témoignages qui pourraient illustrer ce que nos Anouk Flamand et Frédéric Jésus viennent d'évoquer de manière peut-être un peu plus concrète et nous montrer qu'il y a sur les territoires des expériences qui existent ou en tout cas des essais, des tentatives avec l'idée effectivement de faire évoluer la place qui est donnée aux différents acteurs dans les projets qu'on mène sur nos territoires. On vous appelle bien sûr aussi au maximum de synthèse pour qu'on ait le temps d'avoir un échange le plus riche possible, sachant qu'on a combien de temps, Yves ? C'est toi le maître du temps. 10 minutes, voilà. Donc on va faire efficace, synthétique et percutant, et on poursuit après dans les ateliers. Donc on vous laisse la parole.
Oui, bonjour. Donc Karine Hennifer, direction départementale de la cohésion sociale de l'Isère. L'année dernière, nous avons renouvelé une trentaine de projets éducatifs de territoire. Donc l'évaluation que nous avons faite a fait ressortir une volonté de coéducation effectivement affirmée dans un certain nombre de communes et notamment d'implication des parents et une certaine insatisfaction par rapport au fonctionnement des comités de pilotage avec la recherche de solutions pour que cette participation soit effective. Alors, il y a eu plusieurs idées dans les communes. Il y a eu l'idée reprise des conseils de quartier dans les quartiers politiques de la ville de tirer au sort les représentants des parents au lieu que ce soit les parents élus des conseils d'école pour qui ça peut être intéressant. Ils deviennent de plus en plus des experts des questions éducatives, mais en même temps, voilà, on sait bien que c'est une partie des parents et pas n'importe quel parent qui s'implique de cette façon. Une autre solution qui a été mise en place, notamment dans la ville de Grenoble, c'est la constitution de conseils locaux de périscolaires. J'ai cru comprendre qu'à Strasbourg, c'était le cas aussi. Donc, dans chaque groupe d'école, ou parfois deux écoles, si ce sont des écoles de taille moins importante. Après, ça en est encore au début, donc la question c'est avec quelle régularité ces conseils se réunissent pour qu'il y ait une vraie dynamique qui se crée, et puis comment on fait pour que ce ne soit pas seulement des lieux de présentation de ce qui est mis en place voilà, par les équipes d'animation, mais qu'il y ait une vraie possibilité de proposition des parents. Donc je sais, peut-être ça sera présenté dans l'atelier qui va avoir lieu tout à l'heure sur les parents, mais le mouvement ATD Carmonde, je crois, fait un travail formidable pour que les parents donc, soient associés. Et avec cette idée que peut-être il faut aussi qu'il y ait des temps entre eux, des temps d'échange entre pairs, avant de pouvoir échanger et se positionner face aux autres personnes. Et puis par rapport à l'école, ils font aussi un travail très intéressant sur les postures professionnelles des enseignants de façon très très concrète qui permettent de favoriser la relation avec les familles. Alors c'est vrai, éloignées de l'école, c'est très vilain. En fait, ce sont des familles surtout précarisées et qui ont souvent, eux, un vécu très douloureux dans leur propre passif d'ex-enfant. Voilà. Voilà, je vais arrêter, je ne vais pas être trop.
Merci beaucoup. Je vous propose qu'on enchaîne quelques interventions et puis ensuite on redonnera la parole rapidement à nos collègues.
En fait, je voudrais juste que vous développiez le travail que vous faites sur la posture des enseignants. Comment ça se passe et avec qui ?
Oui, je vais très rapidement. Simplement, il y a un petit livre d'ATD Carmonde qui s'appelle « En associant les parents, tous les enfants peuvent réussir ». Et c'est détaillé de façon très concrète. Par exemple, une enseignante qui a rendez-vous avec une maman et puis la maman n'arrive pas. Ben, l'enseignante, elle reste une heure et demie dans sa classe. Et quand elle arrive, voilà, elle l'accueille de façon très conviviale, on va dire, sans lui faire quelques reproches que ce soit. Enfin, c'est des choses de cet ordre-là qui sont vraiment, qui peuvent sembler basiques, mais... Voilà, enfin, je pense qu'il y a un gros travail de formation sur les représentations des enseignants aussi à faire, parce que moi, pour avoir été professeur des écoles, je sais qu'il y a quand même beaucoup d'enseignants qui ont des représentations très, très négatives et stéréotypées des parents, des familles d'écoles populaires, surtout que maintenant, les enseignants sont recrutés à niveau master, donc c'est vrai qu'ils sont de plus en plus éloignés des familles populaires.
Oui, alors Jacques Berthaud, coordinateur PEDT à Mélan, c'est une ville de l'agglomération de Grenoble. Pour revenir sur la participation des habitants, au départ des PEDT, on a vraiment travaillé là-dessus, on a eu beaucoup de participation, alors des parents d'élèves, on a fait des réunions publiques, on a présenté des choses, il y a eu une grosse mobilisation. Après, avec le temps, en fait, la difficulté, c'est de continuer à faire vivre cette participation. Comme l'a dit un peu Karine, on a toujours les parents de conseil, les élus, et du coup, on n'arrive plus à toucher les autres parents. Et du coup, après, on a des comités périscolaires qu'on a mis en place. Après, on rentre dans une espèce de routine, et je le dis, hein, on a du mal à... Alors, on fait une évaluation, on a fait une petite évaluation rapide à la première année. Bim, tout le monde est revenu, réunion publique, qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, on évolue. Et puis après, pouf, ça redescend. Et du coup, on a du mal à maintenir, en fait, la participation de tout le monde, des associations. Et on se retrouve avec des comités de pilotage, que je vais dire des comités techniques. En fait, où nous, les professionnels, on présente des chiffres, on présente des actions. Les parents, ils donnent leur avis, oh, c'est bien votre truc, etc. Et puis après, tout le monde est content, on s'en va et on continue, en fait, à faire fonctionner notre PEDT avec un ALSH adossé à l'école ou simplement comme ça, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais... On commence et là on sait que, alors là avec l'évaluation qui arrive, on sait qu'on va retrouver tout le monde autour de la table, mais pas forcément les mêmes qu'au début, puisqu'en fait les parents d'élèves sont réélus à chaque fois, et du coup eux ils n'arrivent pas aussi à se passer le relais, et nous on n'arrive pas à toucher. Alors Mélan c'est une ville classe moyenne, classe sup, hein. Donc du coup l'exigence des parents c'est pas la même, enfin il y a une exigence forte sur la scolarité, sur les activités. Donc nous, on défend aussi le fait que le temps libre, pas d'activité, le droit à s'ennuyer, etc. Mais voilà, donc du coup, vraiment, notre comité de pilotage, moi, j'ai jamais réussi en 3 ans, en 2 ans, à avoir les mêmes personnes autour de la table.
Oui, bonjour, Jean Lambray. Je voulais simplement citer le prolongement des chantiers en association des parents, là, qui ont été indiqués tout à l'heure. C'était effectivement à TD et quelques associations qui se sont appuyées sur des expériences de ce type et qui ont fait des recherches-actions. Pendant 6 années, on a essayé de voir comment faire pour que les parents qui ne fréquentent jamais la relation avec l'école ou la relation avec les institutions d'une manière plus large puissent trouver leur place dans la communauté éducative. Et donc simplement, je ne vais pas présenter la campagne des Milliers un territoire, puisque c'est ce que Milliers un territoire se mobilise avec les parents pour la réussite de tous les enfants, puisque ça fera l'objet de l'atelier ensuite. Mais je voulais simplement proposer une clé. C'est de réfléchir à une vision du PEDT et une vision du rôle du comité de pilotage. Ces nouvelles activités périscolaires, ces NAP, est-ce que c'est pour offrir plus aux enfants qui en ont déjà trop, ou est-ce que ça ne peut pas être l'occasion de réfléchir à quels sont les enfants à qui il manque des choses et de créer du complément en fonction plutôt vers ces enfants-là et plutôt avec les acteurs tiers qui sont eux-mêmes souvent, qui ne valorisent pas assez leur mission éducative, qui sont les personnels, les experts d'usage, les enfants, les animateurs, les ATSEM, les travailleurs sociaux, qui pourraient, pour le coup, enrichir la réflexion du comité de pilotage.
Pierre Lemaitre, donc conseiller d'éducation populaire et de jeunesse. Vous avez dit que la démocratie interrogeait le rapport au pouvoir, elle interroge aussi l'accès aux espaces. Est-ce que, quelque part, il ne faudrait pas bouleverser dans la pratique ces comités de pilotage qui emportent parfois le nom? Est-ce qu'on n'est pas aussi, par rapport à des espaces, de créer des espaces publics mosaïques? Parce que, quelque part, on s'aperçoit qu'il faut révolutionner ou peut-être bouleverser les pratiques et amener peut-être réactiver des méthodes d'éducation populaire pour faire participer, justement... la majorité, et pourquoi pas aussi, parfois, un truc tout simple dans ces comités de pilotage, que celui qui mène la réunion change à tour de rôle, ou qu'on intègre une tierce personne. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a parfois des non-lieux. Ce ne sont pas des lieux de participation, d'expression, ce sont des non-lieux. Alors après, on nomme ça comité de pilotage, mais c'est des non-lieux parce que l'expression n'est pas favorisée, parce que l'expression n'a pas lieu du fait... de la structuration qui est verrouillée. Voilà, c'est un constat. Et c'est aussi, je pense, qu'il faut passer par des bouleversements, quelque part. Le tirage au sort est une très bonne idée. Et il y a d'autres aussi idées. Il y a des idées, parfois, amener du nouveau, amener une tierce personne qui va faire changer les choses. Parce qu'en fait, c'est toujours organisé de la même façon. On s'aperçoit qu'il y a comité de pilotage 1, comité de pilotage 2, comité de pilotage 3, et c'est toujours la même personne qui va mener les débats.
Oui, je vais être assez courte. Moi, je suis Isabelle Guérin, je travaille à Lyon, je suis conseillère technique à la direction de l'éducation. Et je voulais revenir sur des choses qui m'ont beaucoup intéressée dans l'intervention d'Anouk Flamand et que vous avez reprise ensuite sur la notion de parents relais. Parce que moi, l'idée de tirage au sort, je trouve ça intéressant, mais ce qui m'intéresse presque davantage, c'est les endroits où on a commencé à pouvoir faire intervenir les parents, où les parents ont pris des places importantes en tant que soit représentants de parents d'élèves, soit même on a des lieux accueil parents à Lyon, dans les écoles, dans les collèges, particulièrement dans les quartiers populaires, avec des animateurs de ces lieux accueil parents. Et ces animateurs de lieux accueil parents sont souvent des personnes qui prennent une place importante, une place de relais. Et puis il y a très souvent, enfin ça arrive assez souvent, un moment où il y a une bascule, parce que d'une part il y a une prise de pouvoir, ou bien, et c'est souvent concomitant, parce que les parents qui viennent laissent aussi cette place. C'est-à-dire on a tous un peu tendance à se reposer parfois par rapport à quelqu'un qui prend du pouvoir. Et je trouve que c'est vraiment des questions qui m'intéressent beaucoup, parce qu'on retrouve ça aussi dans nous. On a des conseils de vie périscolaire dans chaque accueil de loisirs associé à l'école, où on se rend compte qu'effectivement, au démarrage, les parents sont pas mal venus parce que c'était problématique, parce que les horaires, parce que inquiétude, parce que etc. Et que petit à petit, bien évidemment, il y a beaucoup moins de participation, et aussi parce qu'il n'y a pas de conflit. Donc il y a des choses là que je trouve qui se travaillent en ce moment, qui sont vraiment passionnantes. Et ce que vous avez dit, Frédéric Jésus, à la fin, là, avec vos quatre points, moi, ça me donne beaucoup d'éléments pour essayer de mettre tout ça au travail dans nos écoles, dans nos accueils de loisirs. Je trouve qu'il y a des pistes vraiment intéressantes aujourd'hui là-dessus. Voilà, merci.
Alors, merci beaucoup pour vos interventions. Je vais vous redonner la parole à votre convenance. On voit que dans les interventions, on interroge beaucoup la question des instances, de la question de la permanence de la participation, c'est ce que vous avez évoqué, monsieur, et sur la qualité des instances, la façon dont elles sont animées et la façon dont elles constituent des espaces d'expression. Vous avez évoqué, monsieur, la notion de non-lieu d'expression. On a évoqué aussi la question de l'élargissement de la participation à ces instances, et puis des pistes qui ont été évoquées, comme le tirage au sort, la notion de parent relais sur laquelle vous êtes revenue, madame. Voilà, j'ai essayé de reprendre quelques éléments. Je vous laisse intervenir en 2-3 minutes sur ce qui vous parle le plus.
Moi, très rapidement, simplement, je voulais juste rebondir sur l'éloignement des professeurs des écoles par rapport au milieu dans lequel ils peuvent évoluer. Je pense que c'est un point essentiel sur lequel on manque encore de travaux. C'est-à-dire qu'en effet, on recrute à des niveaux de qualification de plus en plus élevés et on sait que l'université est loin d'être le lieu pour en faire partie d'une mixité sociale extrêmement importante, notamment au niveau master. Et notamment sur la question de où vivent les enseignants par rapport à ces quartiers-là. Je pense qu'on peut étendre cette question aux fonctionnaires territoriaux. Où est-ce qu'on habite par rapport à ces quartiers où on intervient? On y va, on va au travail, on en repart. C'est une dynamique qui était déjà présente auparavant. Il ne faut pas mythifier la figure de l'instituteur, etc. Parce qu'il y avait aussi des processus de fermeture. Mais quand même, cette question-là me semble, à mon avis, c'est un enjeu logé. Et après, sur ce que vous avez dit sur les instances, je trouve ça particulièrement intéressant. Et ça me fait penser à la question finalement de la temporalité des acteurs. C'est-à-dire que quand on participe à ces instances en tant que qu'habitant, c'est quoi notre temporalité? C'est quoi notre investissement dans le temps long? Et ça pose des questions aux professionnels pour la permettre. Parce que vous l'avez dit, au début, ils vont venir et puis après, ils ne viennent pas. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas? Alors, en effet, parce que c'est des non-lieux, parce que c'est des endroits où finalement... tout le monde va reprendre sa place. Enfin, moi, je vous invite à vous interroger sur où vous vous asseyez dans ces réunions. Où s'asseyent les participants? Qui prend la parole en premier? Je ne sais pas, dans une salle comme ça, en général, les élus vont se mettre là. Les participants vont se mettre là. Déjà, rien que ça, ça commence tout de suite par créer une dynamique particulièrement de rapport de domination très forte. Quand on a des porte-paroles d'habitants, c'est en général le seul qui a le droit de monter à la tribune. Donc bon, voilà. Et alors là, on est parlé par... Enfin, voilà, il y a plein d'enjeux, mais qui sont très difficiles. Je pense qu'il y a beaucoup de professionnels qui se posent ces questions, mais c'est difficile au quotidien de prendre ce recul. Je pense que c'est... alors même si c'est difficile, la position de recherche, parfois, parce que vous, on peut avoir l'impression que le chercheur, il voit que les choses qui ne vont pas, et etc. Mais c'est vrai que le regard extérieur, on voit plus vite les choses. Et c'est parfois pas inintéressant, ce rapport entre recherche et pratique, parce qu'on a conscience que voilà, quand on est dans quelque chose, on a du mal à prendre du recul. Et je pense que c'est nécessaire. Et je suis particulièrement intéressant, moi, par ces questions de tirage au sort, de parents relais. Comment est-ce qu'on fait pour casser ces logiques ? En même temps, et je reviendrai sur ce que vous avez dit à la fin, c'est-à-dire que assez rapidement, il y a des prises d'opposition, de pouvoir. On est dans des relations sociales et la domination, n'importe comment, elle se recrée. Et ça, enfin, il faut aussi accepter que, enfin voilà, dans n'importe quel espace social, familial, enfin voilà, on a ces. Et en fait, au moins d'en être vigilant et de le questionner. À défaut de voilà, enfin, je pense qu'il faut plutôt s'interroger sur les effets qu'on produit parfois. Enfin, on fait quand même des choses, et ça, je pense, je rejoins votre optimisme, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui ont évolué, et je pense qu'il faut s'y accrocher, tout en étant vigilant et en se disant que voilà, il y a des logiques sociales qui sont fortes, et voilà, on est sur cette démocratie, et vous avez fini sur la démocratie ascendante plutôt que descendante. Très honnêtement, je pense que la démocratie a été très rarement ascendante. Je pense que la démocratie est globalement très descendante, en tout cas sur toute la Ve République. Donc voilà, on est quand même, on a des choses assez fortes à questionner.
Quand on parle de pouvoir d'agir, on parle d'agir, mais on parle de pouvoir. Hein, et ça s'entend clairement. Pourquoi les parents ne seraient-ils pas pris par cette question du pouvoir ? Ce serait bien regrettable qu'ils ne le soient pas. Quand on parle de pouvoir, alors on peut l'entendre comme les anglophones, hein, power, de empowerment, c'est pas que le pouvoir, c'est aussi l'énergie. C'est ce qui fait bouger les choses. Donc le pouvoir, c'est pas ça, là, de ce point de vue-là, mais la question, et notamment avec le PEL, le pouvoir éducatif local, c'est comment on le partage. Et c'est une question qui va se poser pour les parents. On a parlé de groupes de pères, on a parlé de parents relais, tirage au sort. Hier, dans l'atelier sur l'évaluation, je ne sais pas si elle est là, il y avait une représentante du CNFPT qui interrogeait la question de la représentativité des parents dans les instances que nous évoquons. Moi, l'expérience que j'en ai, c'est que la représentativité des parents, c'est une pure illusion. On n'y arrivera jamais, sauf peut-être par le tirage au sort, justement. Mais en revanche, si on peut agir quelque chose qui s'en rapproche, c'est de veiller à la diversité des parents. Et attention, dans parents, j'entends mère et père aussi, au passage, ce qui n'est pas toujours garanti, a priori. Comment l'obtenir, justement peut-être par un processus politique. Les groupes de pères institués, la méthode des groupes de pères est instituée par Athée Descartes est intéressante. Et moi, j'en vois d'autres qui consistent à faire en sorte que, au-delà des seuls représentants élus de parents d'élèves, qui ne doivent pas être contournés non plus, parce qu'ils ont eu le courage de s'avancer, de se présenter, de solliciter un mandat. Alors il faut interroger leur mandat en revanche, hein, régulièrement. Mais ces parents sont tout à fait respectables, même s'ils ne sont pas tout à fait toujours représentatifs. Il est important, et c'est certainement le rôle des associations de proximité, entre autres, de faire émerger des parents, j'allais dire des parents militants, des parents porte-parole, des parents qui auront suffisamment de conscience politique de leur rôle de représentant de parents, pour ne pas parler que de leurs propres conditions de parents ou de leurs seuls enfants, comme ça peut être le cas, mais se sentiront plus ou moins fidèlement les porte-parole d'autres parents sur le territoire. Et faire émerger ces parents, les accompagner, les encourager, peut-être aussi un des éléments qui va permettre que le pouvoir se partage et soit interrogé régulièrement. Voilà. Je dirais aussi pas pour terminer, mais pour contribuer à cette façon de désigner le P dans pouvoir éducatif local, projet éducatif local, qu'il m'arrive souvent aussi, tellement je suis optimiste, d'entendre PEL par plaisir éducatif local. Ce que je veux dire par là, c'est que quand le pouvoir de coéduquer et effectivement partager, et que ce partage est assumé comme tel, l'un des enjeux et l'un des résultats, et peut-être un des indicateurs d'évaluation de ce qui se passe, c'est la réduction des tensions éducatives entre les différents acteurs en présence, c'est-à-dire la possibilité du plaisir. Puisque, je vais revenir à mon premier métier, la psychanalyse nous a appris que le plaisir, c'est le résultat de la réduction des tensions.
Merci beaucoup. On pourra poursuivre ce jeu autour des acronymes PEL au cours des ateliers. Merci pour vos interventions. Merci pour les échanges préalables qu'on a eus pour préparer cette rencontre. Je repasse la parole à...